Accent d'Europe, Frédéric Lebel.
Bonjour à toutes et à tous. La tension politique n'a jamais été aussi vive en Bosnie-Herzégovine. 26 ans après les accords de paix, on parle même d'un risque de sécession dans cet État multiethnique composé de deux entités autonomes, la République serbe et la Fédération de Bosnie-Herzégovine. En cause, le chef politique des Serbes de Bosnie, Milorad Dodik, boycotte les institutions communes depuis l'été dernier. Il veut aussi créer une armée autonome, ce qui scindrait de fait le pays en deux. Quand bien même on peut parler d'un calcul politique, voire électoraliste, le risque d'un retour de la violence entre les communautés est bien là. Reportage de Louis Seyé près de la ligne de démarcation héritée de la guerre.
Dans son épicerie située entre une mosquée et un monastère orthodoxe, Hatidja ne cache pas son inquiétude. Depuis la fin de la guerre en 1995, le village de cette mère de famille de 39 ans est coupé en deux par une frontière invisible. Celle qui sépare les deux entités de Bosnie-Herzégovine. D'un côté, la Fédération croato-musulmane, de l'autre, la République serbe de Bosnie.
Ici, on vit comme des voisins entre Serbes et musulmans. On se parle et on vit bien ensemble. On n'a aucun problème. On vit comme des citoyens normaux. Mais quand on écoute les discours politiques, on ne sait pas ce qu'il faut croire. On est vraiment inquiet, sincèrement inquiet. J'avais 14 ans quand la dernière guerre a éclaté et maintenant certains voudraient qu'il y en ait une autre. Mais j'espère vraiment qu'il ne se passera rien.
Habitué des provocations, le chef nationaliste serbe Milorad Dodik a récemment semé le trouble en annonçant la création d'une armée autonome. Le haut représentant de la communauté internationale dans le pays a parlé de sécession et de menaces existentielles pour la Bosnie-Herzégovine. Comme Hatidja, de nombreux Bosniens ne veulent pas croire à une implosion du pays.
On partira en Allemagne. Je ne sais même pas comment ça fonctionnerait cette séparation. Certains pensent que ce serait mieux et que c'est ce qu'il faut faire, que ça va être super. Mais moi, je ne suis pas sûre que ça nous permette de vivre mieux.
Malgré les efforts de la communauté internationale, la société bosnienne reste profondément divisée. Depuis 30 ans, les partis nationalistes n'ont cessé d'attiser les tensions et les trois communautés ne partagent souvent plus grand-chose dans leur quotidien. Dragana habite à Pale, l'ancienne capitale des Serbes durant le conflit, située à 20 km de Sarajevo. Cette coiffeuse de 39 ans approuve l'idée d'une séparation.
Moi, je vis en Republika Srpska. Et pourquoi ne pas faire cette séparation? C'était la même chose avec la guerre. Ils voulaient leur pays et nous le nôtre. Aujourd'hui, on ne parle pas beaucoup de ces possibilités et on entend parler de Srebrenica tout le temps. Ça ne fait que semer plus de haine. Il faudrait qu'on se sépare pour en finir.
En Bosnie, la guerre civile et les massacres des années 90 sont encore l'objet de violentes polémiques. Les dirigeants politiques n'hésitent pas à glorifier les criminels de guerre condamnés par le tribunal international. Une rhétorique haineuse qui permet de faire oublier les inégalités sociales, mais aussi les problèmes de corruption et de clientélisme qui ravagent la société bosnienne. À 28 ans, Stéphane gère un petit restaurant dans le centre de Pale. Pour lui, le président de la communauté serbe cherche avant tout à conserver son pouvoir, un an avant d'importantes élections nationales.
Il a simplement peur de devoir rendre des comptes à la justice sur ses activités criminelles et les milliards qu'elles lui ont permis d'accumuler. Il a peur de perdre aux prochaines élections, car toutes ces actions criminelles, ces milliards, ces biens immobiliers seront révélés et il pourrait finir en prison. C'est la seule raison des tensions actuelles. Cette situation m'inquiète moi aussi. J'ai toujours peur qu'il se passe quelque chose, qu'il y ait des affrontements. Ça joue sur le travail et le moral des gens. Le pire, c'est la télévision.
À l'ouest du pays, du côté des nationalistes croates, l'idée d'une séparation fait elle aussi son chemin. Alors que l'État bosnien semble au bord de l'effondrement, des Sarajeviens manifestent chaque lundi devant le siège des organisations internationales afin qu'elles fassent respecter les accords de paix. Pour sa fête, un artiste de 37 ans, sans intervention des internationaux, le risque d'un nouveau conflit est bien réel.
Même si certaines personnes disent que ce ne sont que des discours électoralistes, moi je ne pense pas qu'une nouvelle guerre soit irréaliste. Il suffit de regarder les politiciens qui sont au pouvoir. Ce sont des gens qui suivent une politique fasciste comme celle des années 1940. Donc je ne pense pas que la guerre soit une option irréaliste, même si la situation est différente de celle des années 90.
Un retour des années 90, c'est ce que craignent beaucoup de citoyens dans les Balkans. En Bosnie-Herzégovine, mais aussi au Kosovo et au Monténégro, la Serbie du président Vučić est accusée de promouvoir sa vision du monde serbe et de déstabiliser ses voisins. Une politique dangereuse qui fait à nouveau craindre pour la paix dans la région.
Et le Covid est à nouveau en tête des préoccupations sur le continent, alors qu'un tiers des Européens ne sont pas encore complètement vaccinés. On a vu des scènes de violence éclater en France, dans les Antilles, en Belgique ou aux Pays-Bas contre les restrictions imposées par l'État. L'Organisation mondiale de la santé estime qu'il pourrait y avoir 700 000 morts de plus d'ici le printemps prochain. Dans ce contexte très tendu, le gouvernement allemand promet de nouvelles mesures et on retiendra cette phrase choc du ministre de la Santé. D'ici la fin de l'hiver, a-t-il dit, tous les Allemands seront vaccinés, guéris ou morts, car les contaminations et le nombre de cas positifs n'en finissent plus de battre des records en Allemagne. Bonjour Julien Méchaussier.
Bonjour Frédéric, bonjour à toutes et à tous.
Vous êtes notre correspondant à Berlin et chez vous, Julien, la vaccination a toujours autant de mal à s'imposer.
Oui, et c'est bien ce que cherche Jens Spahn que vous venez de citer, convaincre les non-vaccinés. Avec 68% de la population qui a reçu ces deux doses, nous sommes ici très loin de pays comme le Portugal ou l'Espagne qui dépassent eux les 80%, avec comme conséquence directe un taux d'incidence qui dépasse les 400 contaminations pour 100 000 habitants, près de 50 000 cas par jour en moyenne, et les services de soins intensifs saturés. Des patients atteints du Covid ont même dû être transférés pour la première fois la semaine dernière vers l'Italie, faute de place.
Des chiffres qui sont alarmants et qui sont bien pires que lors des précédentes vagues, Julien, lorsque l'Allemagne semblait mieux s'en sortir que la plupart de ses voisins.
Et c'est exactement ce qui est ressenti ici. La situation n'a jamais été aussi grave. Avec ce constat chiffré et donc difficilement contestable, les personnes qui meurent en soins intensifs sont à l'écrasante majorité des non-vaccinés. Comment expliquer cette situation alors que toute l'Europe se demande ce qui se passe en Allemagne ? On pense bien sûr au poids de l'histoire et des deux dictatures qu'a connu le pays au XXe siècle sous les régimes nazis et communistes. Au contraire de la France, nous avons donc ici un État central faible dont les interventions dans la sphère privée sont souvent considérées comme autoritaires. D'où ces slogans repris dans les grands rassemblements contre les mesures sanitaires qui dénoncent une dictature, sans oublier un État fédéral qui laisse au final les Länder, ces régions aux fortes prérogatives, ajuster leurs mesures sanitaires sans imposer par exemple de vaccination obligatoire. Même si les lignes bougent ces derniers jours, Frédéric, il y a de nombreuses voix qui s'élèvent pour une obligation concernant au moins le personnel soignant et les enseignants.
Et on note aussi de fortes disparités régionales. Le taux de vaccination est beaucoup plus faible dans le sud et l'est du pays.
Tout à fait, et avec des explications différentes selon les régions. À l'est, par exemple, dans les Länder de l'ex-RDA, eh bien, plus le vote AfD est fort, le parti d'extrême droite, et plus le taux de vaccination est faible. 22 députés AfD au Bundestag déclarent, par exemple, avec fierté qu'ils ne sont pas vaccinés. Au sud, en Bavière ou dans le Bade-Württemberg, les sociologues évoque un individualisme radical. Des régions avec de forts mouvements portés sur l'ésotérisme et les médecines dites alternatives. Ce que l'on retrouve d'ailleurs en Suisse ou en Autriche, deux autres pays germanophones avec de très faibles taux de vaccination. Si l'Autriche a réagi avec un confinement et une obligation vaccinale, ici, on attend toujours. Christian Drosten, virologue et conseiller du gouvernement dont les pronostics malheureusement se sont toujours avérés juste jusqu'ici, prévoit 100 000 décès supplémentaires dans les prochains mois sans véritable renforcement des mesures.
Merci Julien Méchaussi à Berlin. Tout toute la classe politique britannique avait fait le déplacement cette semaine dans la cathédrale de Westminster à Londres pour les obsèques de Sir David Hamas, ce député conservateur assassiné alors qu'il tenait une permanence dans sa circonscription. Et c'est aussi pour lui rendre hommage que la ville principale de sa circonscription, Southend-on-Sea, une ville portuaire du sud-est de l'Angleterre, a obtenu le titre de City. City, c'est un peu plus qu'une ville, ce n'est pas une simple town en anglais, c'est un titre honorifique et c'est notre chronique en un mot de cette semaine. Marie Bion, bonjour.
Bonjour Frédéric.
Vous êtes notre correspondante à Londres. Obtenir le titre de City, c'est une campagne que menait depuis longtemps le parlementaire.
Oui, il était connu pour ses interpellations régulières au sein de la Chambre des communes et en dehors. Jusque-là, la réponse n'avait jamais été positive. Après son décès, la pression a été unanime pour que le gouvernement change d'avis et il n'a pas fallu longtemps à Boris Johnson pour annoncer que le vœu le plus cher du député allait être réalisé post-mortem. La ville de Southend va donc devenir une ville. Alors on se heurte un peu à un problème de traduction ici parce qu'en anglais on fait la différence entre une town et une city. Valentine Quignot est analyste au centre de réflexion Center for Cities.
Je pense pas, en tout cas là comme ça, qu'il y ait une traduction, mais dans le débat anglais c'est extrêmement présent. Mais ça c'est une définition plutôt symbolique de la ville. Donc dans le think tank dans lequel je travaille, on choisit plutôt une définition économique des villes. Donc les plus grandes aires urbaines qui ont un certain rayonnement ou une attractivité économique définie sont considérées comme des villes, donc comme des cities, même si elles n'ont pas le statut officiel de ville.
Selon cette définition, Southend était déjà une city, elle a un aéroport international, elle est proche de Londres, elle est prospère, créatrice d'emplois notamment grâce à son industrie balnéaire, et pourtant Southend n'est devenue une city qu'avec la charte royale émise par la reine Elisabeth II, confirmée le 18 octobre.
Mais alors quels sont les critères pour devenir une city?
Il n'y en a pas vraiment. Alors à l'origine, il y a des centaines d'années, c'était lié au droit de tenir un marché, mais depuis cet avantage ne veut plus rien dire. Encore plus compliqué, Londres elle-même n'est pas une city. Par contre, le quartier financier, la City of London, et le quartier du gouvernement, la City of Westminster, sont des cities. D'autres arrondissements sont des bourgs royaux, comme Greenwich, mais là ça c'est encore une autre histoire. Bref, pour devenir une city, il n'y a pas de critères clairs, dit Valentine Quignot.
On pense souvent qu'une condition pour être une ville, c'est avoir une cathédrale, mais ça c'est une fausse conception, justement c'est une légende urbaine. Par exemple, la ville de Brighton, c'est officiellement une city, mais elle n'a pas de cathédrale.
À l'inverse, une ville comme St David's au Pays de Galles, qui est vraiment un petit bourg médiéval avec sa splendide cathédrale, elle a conservé son titre de city. Alors elle l'a perdu de 1886 à 1994 avant de le récupérer. La ville de Rochester, elle, dans le sud de l'Angleterre, l'a perdu en 1998. Ce n'est pas une punition, uniquement les conséquences d'un redécoupage administratif.
Et Marie, est-ce qu'il y a des avantages à être une city?
Le prestige, clairement, le droit de s'appeler une city fait encore se gonfler d'aise, certaines poitrines, mais ce n'est pas un signe de favoritisme étatique ou royal, dit Valentine Quignot.
Je pense que c'est plutôt symbolique, je ne pense pas que ça amène grand-chose d'autre. Ça peut attirer certains touristes, je pense que ça peut donner peut-être des formes de financement, de voilà, faire partie d'un groupe avec d'autres villes qui fait que ça donne rayonnement à la ville, mais il n'y a pas vraiment d'implication économique derrière.
Par contre, puisqu'on parle de symboles, on parle aussi des politiques. Et dans le débat actuel du leveling up, cette vision gouvernementale qui vise à l'égalité des chances pour tous les Britanniques où qu'ils vivent, le vocabulaire, ça compte, dit Valentine Quignot.
On attribue souvent aux towns le fait d'être ce qu'on appelle left behind, donc c'est souvent dans ces plus petites villes justement que par exemple le vote du Brexit a été plus fort ou que les inégalités économiques sont les plus fortes. Et donc c'est souvent sur ces endroits-là que se concentre la campagne de leveling up et le fait qu'il y ait des inégalités économiques très fortes au Royaume-Uni. Et les villes à l'inverse sont considérées comme étant plus favorisées, même si c'est moins le cas dans la pratique.
Deux autres villes sont en attente pour obtenir le statut de city à l'occasion du jubilé de platine de la reine, 70 ans sur le trône, en juin prochain. Warrington à l'ouest de l'Angleterre et Crowley dans le sud, qui n'ont pas une grande visibilité. Deux villes qui aimeraient bien ce titre au parfum presque royal.
Merci Marie Billon à Londres. Lazio, sul prato verde vola. Lazio, tu non sarai mai sola. Vola, un'aquila nel cielo. Et on terminera cette émission dans un stade de football avec une initiative très italienne lancée par l'association des supporters du club La Lazio de Rome. Lazio et Libertà, c'est son nom. Leur idée, remettre un peu de solidarité dans un sport où le prix des billets est de plus en plus inabordable, surtout en période de crise. Leur initiative s'appelle le billet suspendu. Ceux qui ont les moyens peuvent payer à l'avance un billet pour d'autres qui ne peuvent pas se le permettre. L'initiative qui s'inspire d'une pratique du café suspendu, lancée dans la ville de Naples, a reçu un bel accueil et elle permet de redorer l'image des tifosi. Compte rendu de match signé Olivier Bonnel devant le stade olympique de Rome.
Cet après-midi, la foule est là aux abords du stade olympique de Rome. Car l'affiche est belle, la Lazio, l'un des deux clubs de la capitale, affronte la Juventus de Turin, le club le plus titré du pays. À quelques mètres de l'entrée sud-est du stade, Francesco distribue des billets pour ceux qui n'ont pu se l'offrir.
Là, on a pu acheter 40 billets pour nos supporters. C'est de bon augure pour les prochains matchs. On fait l'intermédiaire entre les tifosi de la Lazio qui ont les moyens et les autres qui n'ont pu acheter un billet. Pour ce genre de match de haut de tableau, très populaire, vu l'emplacement dans le stade, le billet coûte plus de 40€ en prévente, ce qui est très cher.
Pour les supporters de la Lazio, en ces temps de crise économique, ce coup de main solidaire est le bienvenue, comme le résume Valerio et Mirietta.
C'était un problème car je n'ai pas de travail, pas beaucoup d'argent. Et les billets sont vraiment chers, mais ils sont venus à mon aide.
C'est la première fois que je viens sans payer. Cette initiative rend vraiment heureux ceux qui ne peuvent pas se permettre d'acheter un billet.
Le billet suspendu prend l'exemple né à Naples du café suspendu. Le consommateur paye un café supplémentaire pour une personne dans le besoin. Un geste de solidarité qui veut rappeler que le foot doit rester un sport abordable. Gianandrea Pecorelli est le président de Lazio e Libertà.
Les billets sont très chers en Italie, et à Rome en particulier. Et plutôt que de protester, on a pensé que nous pouvions faire quelque chose pour donner envie aux supporters de venir, car beaucoup d'entre eux sont pénalisés pour des raisons économiques. On est convaincu qu'il est nécessaire de créer des initiatives pour faire venir les gens au stade. Cela peut passer par une baisse des prix ou des prix de groupe pour les familles. Bref, il faut être inventif, créer les conditions pour que les gens viennent voir du foot.
Si Lazio et Libertà plaident pour le retour à un football populaire où l'on vient en famille au stade profiter du spectacle, ce groupe de tifosi s'est aussi fait connaître par un autre combat, l'antiracisme. Les supporters ultra de la Lazio sont connus dans toute l'Italie et même au-delà pour leur salut fasciste, une petite minorité certes, mais qui renvoie une mauvaise image de leur club pour Alessio, l'un des membres fondateurs de l'association.
Bien sûr, on veut en finir avec le stéréotype qui nous colle à la peau, soit à cause de certains supporters, soit à cause des médias qui ne veulent voir le supporter de la Lazio que comme un raciste. Ce n'est pas vrai. Nous, en majorité, on est convaincus qu'aucune idée politique n'a sa place dans un stade. Je ne veux pas que la Lazio soit associée à ce qui n'a rien à voir avec ses couleurs. Les autres clubs ont aussi leurs ultras, mais c'est toujours de nous dont on parle. Alors je dis bienvenue à Lazio e Libertà.
Lors du match précédent, l'association Lazio e Libertà a créé des banderoles résumant son credo « Non à la violence et au racisme ». Pour elle, seule contre le club, les idées politiques doivent rester à l'entrée du stade. Mohamed, d'origine égyptienne, a lui déjà été confronté au racisme. Le combat de Lazio e Libertà est pour lui essentiel.
C'est vraiment une initiative à saluer qui veut s'opposer au cliché du supporter de la Lazio. C'est un message universel pour montrer que la Lazio a toujours eu des valeurs nobles et pour faire taire toutes les voix qui courent sur nos supporters.
Un combat qui devient de plus en plus populaire. Et c'est en français que conclut le président de Lazio e Libertà pour résumer la raison d'être de son association, pas comme les autres.
C'est Lazio Liberté, mais c'est aussi Lazio Légalité et Lazio Fraternité. Et alors, ça, c'est important pour nous.
Accent d'Europe était réalisé aujourd'hui par Françoise Grelot. Retrouvez-nous sur notre site à la rubrique podcast. Abonnez-vous aussi sur votre plateforme d'écoute préférée. À demain.